des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Antoine Robitaille.
Le philosophe de la politique.
La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
Vous écoutez Là-haut sur la colline.
Les critiques actuelles adressées à la gestion de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, seraient la preuve que les femmes en politique font l'objet de l'éternel deux poids, deux mesures. Ces critiques auraient donc un biais genré, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire seraient plus dures avec les femmes. C'est ce que concluent mes deux invités, Catherine Sullivan et Alexis Labelle, toutes deux doctorantes en sciences politiques à l'Université de Montréal. Elles ont publié un texte dans The Conversation intitulé « Madame Sourire ». Que dit la couverture médiatique de Valérie Plante? Bonjour Catherine et Alexis.
Bonjour. Bonjour.
Donc, qu'est-ce qui vous conduit à cette conclusion, Catherine, qu'il y a un biais genré à l'égard de Valérie Plante?
Le biais genré existe depuis longtemps et on a pu voir même pendant la campagne électorale entre Denis Coderre et Valérie Plante qu'il y avait déjà un biais genré. J'avais d'ailleurs regardé un peu en couverture médiatique à l'époque. On parlait beaucoup de son sourire, de ses vêtements, même récemment. Il y a eu tout un article sur le mari de la mairesse et à quel point il devait prendre le relais à la maison et que c'était inhabituel que la femme ne soit pas là. Mmh. Donc, c'était pas trop surprenant ce qu'on a pu voir. En fait, c'était Alexis qui a eu l'idée de faire ce projet de recherche à la base.
Ce biais-là quand même... Oui. Ne l'a pas empêché de gagner, Alexis, aux dernières élections?
Non, effectivement. Il faut dire aussi qu'aux dernières élections, il y a une partie de la population pour qui c'était la première fois qu'ils votaient aux élections municipales. Donc, il y a aussi eu je pense qu'il y a quand même eu un effet momentum avec Valérie Plante, où il y a eu plusieurs premiers électeurs. Je pense qu'il a sans doute contribué à son élection. Donc, il y a quand même eu un effet Valérie Plante. Puis même, bon, moi, je travaillais un peu plus auprès des militants LGBT, puis j'ai fait plusieurs entrevues avec des militants où je leur demandais s'ils votaient aux élections municipales. Puis la grande majorité d'entre eux ont répondu que c'était la première fois qu'ils votaient et ils votaient pour Valérie Plante parce que c'était Valérie Plante. Okay. Donc, je pense qu'en dépit d'un biais genré dans une certaine couverture médiatique et dans certains propos qu'on pouvait tenir à son égard, je pense qu'il y a quand même eu cet effet-là qui a contribué à son élection.
Et vous, une de vous deux ou les deux, avez-vous milité pour Valérie Plante, son parti ou des candidats?
Non.
Non?
Pas moi. Non.
Je m'étais intéressée au début, mais je me suis retirée justement à cause de la recherche.
Ça, c'est Catherine qui parle. OK. Parfait. Dites-moi, quand on parle de l'apparence des politiciennes qu'on scruterait plus avant, vous donnez l'exemple de Hillary Clinton, j'ai pensé à ça, mais je me suis dit, mon Dieu, mais on regarde énormément l'apparence de Justin Trudeau. On parle de ses cheveux, on parle de ses chaussettes. Puis on pourrait dire aussi la même chose pour Donald Trump. On parle toujours de ses cheveux, de son visage orange, de son côté obèse. Est-ce qu'il y a vraiment un accent plus grand mis sur l'apparence des femmes que les hommes? Parce que, je veux dire, dans les dernières années, c'était manifeste qu'on regardait énormément l'apparence des hommes. Et je vais demander à Catherine de répondre.
Dans le cadre de ma thèse, en fait, je m'intéresse beaucoup aux stéréotypes genrés autant vers les femmes que les hommes. Et il y a quand même un phénomène assez intéressant où les hommes vont aussi souffrir de stéréotypes s'ils vont à l'encontre de ce qu'on perçoit comme étant un homme en société actuelle. Donc, Justin Trudeau est en fait souvent utilisé comme exemple parce qu'il n'est pas perçu comme étant assez masculin, un peu trop féminin. Donc, on va lui reprocher cela. Et c'est pour ça qu'on regarde son apparence, parce qu'on le compare aux femmes et le fait d'être féminin comme étant une lacune plutôt qu'une force.
Alexis?
Ben pour ajouter au point de Catherine, je pense qu'effectivement, l'apparence des hommes est autant scrutée, peut-être pas avec la même loupe que celle avec laquelle on scruterait l'habillement des femmes. Puis je dois dire, encore une fois, les femmes, souvent, dans l'analyse de leur apparence, vont être un peu dans un catch-22, dans la mesure où si elles ne répondent, elles doivent soit trop correspondre aux idéotypes féminins, puis si elles correspondent trop aux stéréotypes féminins, souvent, bon, elles ne sont pas perçues nécessairement comme des politiciennes, parce que la politique est très dominée par les hommes, ou du moins la façon de faire des politiciens. Et à l'inverse, lorsque les femmes s'apparentent trop à un style vestimentaire masculin, ben elles sont tout autant critiquées, comme si on leur demanderait finalement d'avoir l'air plus féminine. Donc elles doivent toujours naviguer entre ces deux extrêmes, et elles sont souvent punies dans les deux cas. Mm-hmm. Alors que, comme l'exprimait Catherine, tant qu'un homme correspond aux idéotypes de la masculinité hégémonique, la masculinité plus mainstream, si on veut, ben ils sont corrects, okay. d'une certaine façon. Ils ne sont pas autant critiqués.
Même Trump, il projette une image de virilité exacerbée, non?
Oui. Oui, tout à fait. Puis de vérité exacerbée, puis il est récompensé par son électorat pour ça.
On va voir le 3 novembre. Il me semble qu'il est très, pas juste récompensé, il est très stigmatisé à cause de son visage orange, ses cheveux bizarres, puis sa taille de baisse, puis ses longues cravates, puis ses petites mains, puis son petit pénis. Je veux dire, tout y a passé là, dans son cas.
J'irais pas jusqu'à dire qu'il est tant stigmatisé. Oui, c'est des critiques qui sont sorties, mais qui s'ajoute beaucoup plus à des critiques liées à ses idées ou à ce qu'il dit. C'est pas nécessairement... J'en ai pas fait l'analyse.
Ouais,
mais
il faudrait.
Je pense que c'est un peu fort de dire qu'il est stigmatisé à ce niveau-là. À l'inverse, par exemple, un Justin Trudeau qui pleure à la Chambre des communes, ça a fait des manchettes et des manchettes à cause des larmes qu'il a versées.
Vous parlez aussi du fait qu'on met l'accent sur le rôle traditionnel féminin de mère et d'épouse, mais que vous parlez de Stephen Harper dans votre article, mais Stephen Harper a été assez critiqué à cause du fait qu'il a serré la main à ses enfants, qu'il manquait de chaleur, que c'était sans doute un être immonde parce qu'il était froid avec ses enfants. Est-ce que c'est pas tous les politiciens qui passent à la casserole également?
Oui, c'est
Catherine,
oui. C'est tous les politiciens qui sont critiqués, c'est normal, ça fait partie de la démocratie. Ici, on a le droit de s'exprimer et tant mieux. La chose, par contre, c'est qu'une femme va se faire attaquer de façon beaucoup plus personnelle et virulente, alors même jusqu'au harcèlement, comme on a parlé dans le texte. Les hommes, souvent, vont s'en tirer avec d'autres choses. Puis aussi, on va les laisser parler leur politique. Les femmes, souvent, on va les couper pour leur poser des questions sur « Ah, mais qui s'occupe de vos enfants? Qu'est-ce que votre mari pense du fait que vous n'êtes pas là? » Et c'est pas les questions que les hommes vont recevoir. Oui, Harper s'est fait ramasser parce qu'il a serré la main de ses enfants, parce qu'il était perçu comme étant froid, pas comme étant perçu tant comme étant un mauvais père. Donc, c'est vraiment pas
ça
la
peut
même
être,
chose.
Ça peut être une autre façon de le dire. D'être froid, ça peut être une façon de dire qu'il était un mauvais père.
Ben, c'est pas ce qui est sorti dans les médias. Mais à l'époque, c'était plus dans les journaux. Mm-hmm. Pour une femme, on va dire qu'il était une mauvaise mère. Lui, c'était un homme froid.
Mon Dieu, mais moi, ça fait 15 ans que je suis à l'Assemblée nationale. J'ai jamais entendu personne parler de ces questions-là à une femme ou poser ces questions-là à une femme. Mettons, est-ce que vous êtes, tu sais, qui s'occupe des enfants? Jamais. Je comprends pas.
À Valérie Plante, dans une des chroniques qu'on a analysées, on demandait justement comment se passait la répartition des tâches à la maison entre elle et son mari. Donc, c'est quand même quelque chose qui ressort dans les médias. Mm-hmm. Puis, si je peux me permettre pour compléter le point que Catherine soulevait, c'est qu'on n'a jamais reproché à Stephen Harper de ne pas être compétent pour passer des politiques qui affecteraient les familles canadiennes parce qu'il serrait la main de son fils. Alors que si on prend un exemple, par exemple Julia Gillard, une ancienne première ministre australienne qui n'a pas d'enfant, qui n'est pas mariée. Elle a un conjoint, mais elle n'est pas mariée. Et elle, à l'époque, lorsqu'elle était au pouvoir, elle avait passé plusieurs... C'était 2000... Oh mon Dieu, ça m'échappe dans les...
C'est un exemple un peu étranger. Peut-être qu'on devrait rester au Québec et au Canada.
C'est quand même la première femme première ministre de l'Australie.
OK, OK.
Puis, c'est ça. Puis, dans le fond, elle avait passé des politiques familiales lors de son mandat. Et dans les médias australiens, on remettait en question sa légitimité, sa crédibilité à passer des politiques familiales parce qu'elle n'avait pas l'expérience d'être mère.
Mm-hmm.
Ah, on n'a pas vu ce type de choses reprochées à des politiciens père de famille ou comme Harper qui, parce qu'il sert la main de son fils, il ne serait pas un bon père, mais on n'a pas remis en question les politiques familiales.
OK. Vous avez un passage de François Cardinal dans votre texte, François Cardinal de la presse, sur la fameuse bande dessinée que la mairesse a publiée. Il dit, bref, au moment où les Montréalais sont à bout de patience, la mairesse de la mobilité leur impose un projet qui ne leur semble pas nécessaire dans le contexte et qui sera dur à justifier cet hiver. Il parle sans doute du corridor cyclable. Disons-le, Montréal sort traumatisé de la première vague de la pandémie, ce que la mairesse semble sous-estimer en poursuivant ses activités, ses projets littéraires et ses engagements électoraux comme si de rien n'était. Qu'est-ce qu'il y a de sexiste dans ce passage? Ou de biais genré? Ou je comprends pas.
Je crois que dans notre article,
oui, Catherine,
c'est quand même exprimé assez clairement en démontrant le parallèle entre Harper qui publie un livre qui était quand même attendu. Il y a eu beaucoup d'articles sur le fait que les gens avaient hâte quand même de le lire et qu'ils allaient sans doute en retrouver une copie sous leur sapin de Noël. Quelques articles ont quand même un peu reproché le fait qu'il faisait ça tout en étant premier ministre.
Donc, il y en a eu.
C'était quand même... Mm-hmm. Oui, mais c'était très minime. Comparé à Valérie Plante, où c'est absolument partout. Et oui, la BD ressort de domaine public lorsqu'il est publié, mais ce qu'elle fait dans son temps libre, lui, revient à elle.
Mm-hmm.
Donc, c'est là où c'est genré, puisque la critique est plus grande et on critique ensuite sa capacité à agir en tant que mairesse.
Avez-vous un sondage là-dessus, Alexis, ou quelque chose, des données? Parce que vous écrivez, la bande dessinée de Plante semble déranger davantage. C'est fondé sur quoi exactement? Est-ce qu'il y a une recension du nombre de textes ou est-ce qu'il y a quelque chose de quantitatif,
Alexis? Oui, ben, à la base... notre analyse exploratoire de la couverture médiatique, elle est quantitative. On a effectivement recensé les articles principaux là, qui ont couvert le livre de Stephen Harper. Puis justement, comme Catherine le disait, il n'y avait pas le même traitement qui était annoncé par rapport au livre de Stephen Harper.
Mm-hmm.
Puis oui, on peut tout à fait souligner le fait que il y a la COVID, qu'on est dans un contexte particulier. Mais je pense quand même qu'au-delà du contexte particulier de la COVID-19 qui fait que effectivement les gens s'en ont pris un peu au timing de l'annonce de la publication de la bande dessinée, je pense aussi ce qui serait intéressant aussi à creuser davantage, c'est le fait, non seulement c'est une bande dessinée, mais c'est une bande dessinée sur une femme en politique. Donc déjà, le sujet, c'est pas nouveau non plus que les enjeux féministes, les sujets féministes sont souvent relégués à la marge, sont souvent ridiculisés par tout ce qui est un peu plus mainstream. Et donc, je pense qu'il faut quand même se questionner sur... puis moi, je suis d'avis que c'est non seulement parce que Valérie Plante est une femme, là où il y a un biais genré, mais aussi parce que le propos renvoie à l'expérience même d'une femme en politique,
mm-hmm.
qui est son expérience à elle. Puis c'est là où je pense qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Pourquoi? Entre autres, en raison des biais genrés qu'on peut avoir. Puis, je veux dire, ici, c'est pas une question de critiquer nécessairement les commentateurs en disant qu'ils ont intentionnellement fait ça. Je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que ça s'inscrit dans un système.
Les commentateurs ou les commentatrices. Parce que
ou les commentatrices,
citez,
oui,
José Legault, notamment, qui parle de son sourire, et Sophie Durocher, entre autres. Ben, écoutez, c'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. Merci beaucoup, Catherine Sullivan à Sherbrooke.
Merci.
Et Alexis Labelle à Montréal.
Merci.
Toutes deux doctorantes en sciences politiques à l'Université de Montréal. On discutait de leur texte publié dans le magazine en ligne The Conversation et qui s'intitule « Madame Sourire, que dit la couverture médiatique de Valérie Plante? » Au revoir. Et c'est tout pour nous à La Haut sur la Colline. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et à demain.